magazine des Nations Unies. À la une de ce magazine, nous avons la réaction de la MONUSCO aux menaces répétées du M23 d'attaquer la ville de Goma dans le Nord Kivu. Et notre invité de ce dimanche est un spécialiste en éducation à l'UNESCO. Le professeur Pierre Gambembo va nous parler de la situation de l'enseignant en République démocratique du Congo. Mais avant cela, Honoré Missinga, bonjour.
Bonjour Mireille.
Dites-nous quel concept nous allons décortiquer aujourd'hui.
Eh bien, dans notre rubrique de cryptage, il sera question du concept bidonville. Restez donc avec nous pour en savoir plus.
Merci Honoré, le rendez-vous est pris.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bon dimanche à tous. Les menaces répétées du M23 d'attaquer la ville de Goma ont constitué l'un des points d'échange à la conférence hebdomadaire des Nations Unies de mercredi dernier. Selon la presse, ce mouvement rebelle aurait occupé toutes les localités le long de l'axe Ishasha et Kiwanja et ne serait qu'à une trentaine de kilomètres de Goma. En réponse, la MONUSCO rassure que la ville de Goma est sécurisée et le dispositif sécuritaire mis en place ne permettra pas au M23 de franchir le Rubicon. C'est colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, qui le dit à Jean-Pierre Elali Coco.
Certes, ce sont des incidents qui arrivent, que nous déplorons, mais Goma est prise en compte par toutes les forces de défense et de sécurité d'abord congolaises, appuyées par la MONUSCO en cela. D'ailleurs, le plan de défense interne de Goma est mis en œuvre. Et je vais vous expliquer juste une chose. Pour aller à Goma, il y a trois axes. Il y a un axe qui vient de Rutshuru, il y en a un qui vient de Sake, il y en a un qui vient un peu du nord-est. Et je puis vous garantir que la sécurité autour de Goma est bien solide, aussi bien par le déploiement des FRDC que par le déploiement de la force de la MONUSCO. Et en interne, des patrouilles sont en train d'être conduites. Et ces malheureux incidents, d'ailleurs, ont poussé les autorités aussi bien provinciales que gouvernementales à renforcer la sécurité aux côtés de la MONUSCO pour que les populations puissent être sécurisées et de manière efficiente.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Kinshasa, un méga bidonville. C'est en tout cas le point de vue de l'ONU Habitat RDC. En 2020, la capitale congolaise sera la ville la plus peuplée d'Afrique. Et en 2015, plus ou moins 1 200 000 ménages de cette ville habiteront les bidonvilles. Ces affirmations sont du professeur Corneille Kanene, coordonnateur du programme ONU Habitat en République démocratique du Congo. C'est avec lui, à l'occasion de la célébration lundi 1er octobre dernier de la Journée internationale de l'habitat que nous allons décrypter justement le concept bidonville. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missinga.
Professeur Corneille Kanene, bonjour.
Bonjour.
Le 1er octobre dernier, le monde a célébré la Journée internationale de l'habitat. Et selon vous, la capitale congolaise serait, dans ses trois quarts, un bidonville. Pourquoi vous dites ça et quelles sont les caractéristiques d'un bidonville?
Alors pour les Nations Unies, pour le programme des Nations Unies pour l'habitat, on a défini les caractéristiques, je les cite assez rapidement. Le premier indicateur, c'est la durabilité du cadre bâti. Le deuxième indicateur, le surpeuplement. Le troisième indicateur, les titres de propriété. Et les deux autres indicateurs portent sur les services urbains, l'accès amélioré à l'eau potable et accès amélioré à l'assainissement. Alors pour nous, dès que l'un de ces indicateurs vient à manquer, nous parlons qu'il s'agit de bidonville. Et en 2020, Kinshasa se retrouvera être la ville africaine, disons, la plus peuplée. Et ça, j'attire l'attention de toute la communauté nationale sur cette donne-là qui est très importante. Que presque tous les 5 ans, la population de Kinshasa s'accroît de 4 millions. Et comment on y arrive? C'est justement parce qu'il n'y a pas une politique, je dois dire, de maîtrise de l'expansion urbaine. Mais on se rend compte que ces gens qui viennent en ville, ils ne sont pas satisfaits. La ville ne prévoit pas des infrastructures d'accueil adéquates. D'où donc la prolifération des bidonvilles.
Qui habite généralement les bidonvilles?
Je dois dire, c'est beaucoup plus les citadins urbains, de fraîche date, qui quittent son village qui quitte la campagne, il vient en ville dans l'espoir, disons, de meilleures conditions d'existence. Et mais qui occupe aussi? C'est le locataire qui, en soi, se retrouve à la merci des propriétaires et que bon, qui augmente sans cesse le loyer. Alors il doit trouver un endroit où il sera au moins propriétaire de son logement. D'où d'abord cette croissance urbaine, cette croissance en tache d'huile, cette croissance horizontale. Chacun y va pour trouver une parcelle où il sera propriétaire. Et alors, mais cette parcelle-là, le site n'a pas été au préalable viabilisé, n'a pas été au préalable assaini. Et il n'y a aucune aide, une assistance à la construction.
Donc on peut dire que les bidonvilles sont des logements, des urbains pauvres.
Quand nous disons, nous acceptons d'abord une chose, qu'il y a cinq caractéristiques qui définissent un logement de bidonville. Si nous acceptons cela, nous pouvons aussi regarder aussi que presque peut-être les trois quarts de la population de la RDC vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc vivent avec moins d'un dollar par jour. On peut comprendre la relation qu'il y a entre le nombre croissant de bidonvilles à milieu urbain et la pauvreté en termes absolus du Congolais. En réalité, c'est tout le monde, que je dois dire, qui connaît cette situation, qui connaît le manque d'eau, l'accès amélioré à l'eau potable, qui connaît le manque d'un assainissement adéquat. Nous disons, c'est vrai, l'eau c'est la vie, l'assainissement pour on y habite, c'est la dignité, mais ces deux aspects, ces deux indicateurs sont clés, sont fondamentaux. Quelqu'un peut dire, mon logement est adéquat dans ce sens que les matériaux sont durables, mais quand on regarde les autres indicateurs, ce n'est pas vrai. Quand je parle de bidonville, c'est un quartier précaire. Alors, je dénombre pas en termes de quartier, mais en termes de ménage. Malheureusement, donc nous pouvons dire que 2 400 000 ménages congolais habiteront, disons, les bidonvilles, les quartiers insalubres, les quartiers précaires. Alors, de ces 2 400 000, Kinshasa, en lui seul, comme ville, pratiquement attire toute la population urbaine. Donc la moitié de ces 2 400 000, donc plus ou moins 1 200 000, disons, des ménages qui n'ont en 2015 seront hélas, disons, des habitants de bidonville.
Vous parlez des millions de ménages.
De ménages, je parle en termes de ménages.
Oui.
En termes de ménages, quand on comprend qu'un ménage moyen pour la ville de Kinshasa compte 7 personnes, donc on peut alors faire des extrapolations en termes de la population. Mais là, il s'agit bien de ménages et nous parlons de ménages, que 1 200 000 ménages à Kinshasa habiteront hélas le bidonville, les quartiers précaires.
Est-ce qu'on peut construire des nouveaux logements viables sur des bidonvilles et à quel prix?
Construire des logements viables sur des bidonvilles, il faut améliorer, restructurer. Mais quand nous parlons de la restructuration, nous, au niveau de Onihabitat, nous ne voyons pas une démolition. Les gens pensent qu'il faut complètement démolir ces bidonvilles et pour construire des logements neufs. Ça aussi, ça sort de notre approche participative. Il faudrait que si nous devons amorcer une opération de restructuration, d'amélioration d'un bidonville, cela devra d'abord se faire avec la population de bidonville elle-même. On s'est rendu compte aussi une chose, Kinshasa connaît pas mal d'exemples, on a vu les gens des habitants le long de Makelele, on les a amenés à Kinkole, on les a amenés à Kimbondo, mais ces gens sont revenus. Les populations de bidonville profitent d'une certaine proximité, de certaines infrastructures, même s'ils n'ont pas l'eau, disons dans leur parcelle, mais peuvent peut-être trouver cela, hélas, à 500 mètres, à 1 km de là. Ils n'ont pas l'électricité, c'est vrai, ils sont à côté d'une usine, ils peuvent profiter de cette proximité. Mais quand vous les envoyez même sur un site où il n'y a pas ces infrastructures, vous recréez les bidonvilles, vous déplacez le problème. Donc j'ai dit que Kinshasa sera la ville la plus peuplée d'Afrique en 2020 et que nous devons vraiment intégrer le développement urbain comme une priorité. Sinon, je l'ai dit la fois passée, que le pauvre urbain est plus pauvre que le pauvre en milieu rural.
Pour ce qu'on est canéné, merci.
C'est moi qui vous remercie.
En bref, une soixantaine d'OPJ et magistrats de parquet de Kinshasa ont participé du 1er au 3 octobre à une formation de formateurs sur la loi portant protection de l'enfant. L'UNICEF a organisé cette formation en partenariat avec le Bureau international catholique pour l'enfance ainsi que le réseau citoyen Net Justice et Démocratie. UNICEF toujours, la représentante de cette agence onusienne en RDC, a effectué la semaine dernière une visite de travail en Ituri. Barbara Benten Cannes y était pour faire un état des lieux des activités humanitaires financées par l'UNICEF, notamment dans les domaines de la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Restons dans l'humanitaire, cette fois-ci avec le PAM, Programme Alimentaire Mondial. Cette agence signale que près de 2,7 millions de personnes vivant dans les ménages ruraux au Katanga seraient affectées par l'insécurité alimentaire. Parmi ces populations, environ 800 000 souffriraient d'une malnutrition sévère, d'après une enquête menée de juin à juillet 2012 auprès de 2 000 ménages. Enfin, à la MONUSCO, Mustapha Soumaré du Mali sera le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ban Ki-moon lui-même a annoncé sa nomination depuis le 6 septembre dernier. Monsieur Soumaré occupera également les fonctions de coordonnateur résident des Nations Unies, de coordonnateur humanitaire et de représentant du programme des Nations Unies pour le développement. Il remplace Fidel Sarasoro de la Côte d'Ivoire, arrivé fin mandat le 30 septembre dernier. Voilà tout pour les nouvelles en bref.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La communauté internationale a célébré vendredi dernier la journée internationale de l'enseignant. Être enseignant, une fonction qui n'est plus du tout attirante en RDC. Et c'est justement autour de cette question que s'entretiennent le professeur Pierre Ngambembo, spécialiste en éducation à l'UNESCO, et Jean-Pierre Elali Ikoko.
Bonjour, professeur Pierre Ngambembo.
Bonjour.
La communauté internationale a commémoré le 5 octobre dernier la journée internationale de l'enseignant. La fonction enseignante n'attire plus, elle est même galvaudée, méprisée et souvent mal payée. Le thème est retenu cette année et agissons pour les enseignants. Ce thème me pousse à vous demander, professeur, ce que fait justement l'UNESCO pour aider le gouvernement congolais à revaloriser la fonction enseignante.
Eh bien, merci beaucoup. Je veux revenir d'abord sur la question pour préciser deux choses. Ce que effectivement la fonction enseignante attire de moins en moins, pour ne pas dire qu'elle n'attire plus, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est galvaudée, comme vous l'avez si bien dit, qu'elle est méprisée. Non, je ne pense pas, parce que quand vous dites que la fonction est méprisée, cela signifie qu'elle devient véritablement un objet de rejet, de mépris, qu'elle n'attire plus. Ce qui est vrai, c'est qu'elle n'attire plus beaucoup de candidats. Deuxièmement, vous voulez savoir ce que l'UNESCO fait. Je me dis que la question tombe à propos parce que nous sommes maintenant dans un processus des réflexions qui portent précisément sur le thème de la revalorisation de la fonction enseignante. Pas plus tard qu'hier encore, nous avons présenté les résultats de la deuxième étude que nous avons fait mener sur la formation initiale des enseignants du secondaire. Cette deuxième étude s'inscrit donc dans une thématique plus globale qui porte sur la revalorisation de la fonction enseignante. Ce que l'UNESCO fait, c'est précisément d'arriver à dégager la situation, à la présenter de manière très très objective pour ceux qui sont destinés à prendre des décisions, à leur faire des propositions et à les accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui sont faites dans les différentes études. Nous pensons que si ces choses-là sont faites, comme nous l'espérons, nous pourrons donc arriver d'ici là à améliorer tant soit peu la situation de l'enseignant et, comme nous le disons, arriver véritablement à revaloriser la fonction enseignante.
Oui, professeur, vous êtes également expert en éducation. Par où commencer pour revaloriser l'enseignement ou même l'enseignant?
Il y a trois axes essentiels par lesquels il faut commencer et qui ressortent d'ailleurs des différentes études que nous avons fait mener. Il y a l'axe de la formation initiale. Il faut véritablement arriver à former les professeurs, les enseignants, à leur donner des compétences pour qu'ils deviennent des professionnels.
Vous croyez que cette formation n'est pas vraiment faite?
Non, lorsqu'on regarde la formation qui se fait actuellement, notamment au niveau secondaire, où l'on forme les enseignants du primaire, dans les humanités pédagogiques donc, il ne s'agit pas d'une formation professionnelle. La preuve, c'est que la plupart des jeunes qui terminent les humanités pédagogiques, ils vont à l'université. Ils ne se destinent pas à la carrière, ou même quand ils y vont, ils n'ont pas réussi à développer les compétences nécessaires qui font d'eux des bons enseignants. Donc, il est important que du point de vue de la formation initiale, qu'on arrive véritablement à professionnaliser la formation. Le deuxième axe, c'est bien entendu l'amélioration du statut. Les statuts incluent aussi la rémunération, incluent également les questions des carrières. Oui, donc vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne les enseignants que le métier n'attire plus et c'est tout à fait exact. Pourquoi le métier n'attire-t-il plus? C'est parce qu'il n'offre, à mon avis, aucune garantie de l'avenir. Les études qu'on a menées ont démontré notamment que sur les enfants qui s'inscrivent, enfin les jeunes qui s'inscrivent dans les humanités pédagogiques, très très peu veulent devenir des enseignants de demain. C'est que véritablement, La question se situe au niveau de l'attrait, de l'attractivité que le métier peut exercer sur les personnes qui veulent bien y aller. Le troisième axe, c'est les conditions de travail. L'enseignant qui est bien formé, l'enseignant qui est plus ou moins correctement rémunéré, il a besoin d'être placé dans des conditions idéales de travail. Et là, nous pensons notamment à la formation continue. Les connaissances évoluent, les progrès, c'est tous les jours qu'ils se réalisent. Il est important que cet enseignant, ses connaissances soient mises à jour tous les jours pour que véritablement il soit un enseignant de qualité.
Il faut qu'il soit recyclé régulièrement.
Il faut qu'il suive régulièrement des formations continues.
Oui.
Donc pour moi, les trois axes devraient aller parallèlement. À la fois qu'on agit sur la formation initiale, on est en train d'agir sur les questions des statuts, des rémunérations, des carrières, également sur la question de la formation continue.
C'est bien. Et un autre fléau qui gangrène notre système éducatif professeur, c'est la corruption. On monnaie les cotes depuis l'école primaire et jusqu'à l'université. Ça, vous le savez.
Oui.
Alors, que fait l'UNESCO pour accompagner, bien sûr, les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption dans ce secteur?
Bien, peut-être qu'on devrait remonter plus haut. Qu'est-ce qui est à l'origine de la corruption? La corruption, c'est l'effet qui apparaît, mais quelle en est la cause réelle? C'est sans doute cette situation de précarité dont vous avez parlé et que nous avons épinglé dans les études sur la carrière, sur la rémunération. La question pourrait éventuellement être résolue en attaquant la cause qui est ici, la question des rémunérations. Nous pensons que si l'enseignant est rémunéré correctement, il y a tendance que véritablement les méfaits de la corruption tendent à diminuer, sinon à disparaître complètement. Mais on devrait également ajouter que dans la formation des enseignants, tant dans la formation initiale que dans la formation continue, il est important d'insister sur l'éthique de l'enseignant. Un enseignant qui est bien formé, qui a intériorisé en lui les bases de l'éthique, de la morale de l'enseignant, c'est un enseignant qui ne se laisse pas corrompre. Donc, à la fois qu'on devrait agir sur la rémunération, on devrait également être davantage sur l'éthique. Et la sanction doit pouvoir suivre.
Professeur, le drame, c'est que c'est mal, donc la corruption, on s'y répond. Et à tous les niveaux, comme je l'ai dit.
Oui.
Et donc, même le professeur, il est corrompu. L'enseignant, le niveau de l'école primaire est corrompu. Même les promoteurs d'école sont corrompus. À tous les niveaux.
Oui.
Comment arriver à juguler la situation?
Mais je me dis que d'abord, nous restons dans le secteur de l'éducation, qui comprend tout. La maternelle jusqu'au supérieur. Donc, ce que j'ai dit vaut autant pour le primaire que pour le secondaire et le supérieur. Mais également, je devrais dire que la sanction dont il est question ici doit s'appliquer à tous les niveaux.
Oui, professeur, nous parlons de la situation de l'enseignant et cette situation, une incidence sur le niveau de l'enseignement en RDC. Quelles sont les stratégies de l'UNESCO pour relever les niveaux?
La stratégie de l'UNESCO consiste simplement à appuyer les ministères à améliorer la qualité de l'éducation. Ça, c'est véritablement notre leitmotiv. Il y a notamment l'amélioration des programmes de formation. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé d'une formation professionnelle. Que l'enseignant soit véritablement le professionnel de la craie. Que l'enseignant ne soit pas n'importe qui n'a pas pu aller ailleurs, qui pense qu'il faut qu'il aille dans l'enseignement pour travailler. Ce ne sera pas un professionnel. Donc, c'est à travers des processus et des programmes de formation qui sont mis en place, à travers toutes les autres, qu'on peut espérer effectivement arriver à améliorer la qualité de l'éducation au Congo. Et l'UNESCO s'investit précisément dans cela. Je dirais même d'ailleurs que c'est le cheval de bataille de l'UNESCO, l'amélioration de la qualité de l'éducation.
Professeur Pierre Gambembo, merci.
Merci beaucoup.
Le Katanga, précisément la ville de Kalemie, nous livre la nouvelle de province de ce dimanche. Depuis un mois, les populations s'activent à travailler à l'ouverture d'une route de desserte agricole bénéficiant d'un appui à la fois de la FAO et du PAM. Ceci dans le souci de relier les communautés de villages de Moulangerout et Moulangerai. Retrouvons donc François-Xavier Mibé qui nous révèle ce qui a motivé ce projet parti de la base.
Ce sont les difficultés des communications, des contacts et les noms. Nombre de cas d'accidents survenus sur le pont jeté sur la rivière des Mangungulu qui ont concouru à l'ouverture de cette piste. Cette piste va devoir relier plusieurs axes vivant presque isolés partant de village de Mpungwe à Moulangerai. Les enfants de la contrée doivent contourner plusieurs villages en passant par les ponts périlleux de Mangungulu, le nom de la rivière sur laquelle est jeté le pont sur la voie ferrée de la SNCC, pour atteindre leurs écoles. Cette route, qui est facile à fréquenter parce que réalisée sur un terrain non accidenté, arrive alors à briser les barrières et créer ainsi une liaison communautaire entre les habitants. Le chef des villages de Moulangerai, Charles Katungoloa, appelle les autorités à la réhabilitation du petit pont de Mangungulu. Il reste malgré tout des travaux de dessouchage sur la piste, la canalisation aux abords de la voie. Avec cette réhabilitation, les familles vivant au bloc de Kabwali, Baemba, Salangeta, Nyembolalo et Kabwa se retrouvent ralliées. Nous sollicitons l'implication des autorités civiles pour obtenir une réhabilitation rapide de ces petits ponts. Avec l'ouverture de cette piste rurale, les communautés vont communiquer, se côtoyer et échanger les produits de champs et les enfants fréquenter leurs écoles sans peine. Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bon, je m'appelle Scott Campbell. Je suis le représentant de l'Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Et en même temps, je dirige le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis né aux États-Unis il y a quelques années. Je suis le petit-fils des immigrés irlandais, donc j'ai deux nationalités. Je suis irlandais et je suis de nationalité américaine aussi. J'ai mis le pied au Congo pour la première fois en 1987. J'étais un stagiaire. J'avais des formateurs zaïrois à l'époque qui m'ont formé en français et qui vont m'excuser aujourd'hui pour toutes mes erreurs. Faute en français, c'est leur faute finalement. Et après quelques mois de formation à Bukavu, en 87, j'ai passé quelques années en République centrafricaine, juste à côté, en tant que volontaire en santé, en milieu rural, qui pour moi était une expérience très formative. Je suis revenu en RDC après avoir fait des études en relations internationales et santé publique au niveau post-universitaire. Et là, j'étais volontaire encore une fois au sein d'une ONG zaïroise à l'époque, où j'avais aussi appris beaucoup de choses. J'étais à Goma de 94 jusqu'à 96, dans une ONG internationale de défense des droits de l'homme. Et puis en 96 plutôt, je me suis joint aux Nations Unies, au commissariat aux droits de l'homme, à Kinshasa, pour ouvrir le bureau de l'Haut Commissariat en RDC pendant les derniers mois de l'époque de l'ancien président Mobutu. J'ai passé aussi quelques années à Kinshasa pendant la Deuxième Guerre au sein des ONG de défense des droits de l'homme. Et puis je me suis joint une deuxième fois aux Nations Unies il y a 6 ans. Cette fois-ci, c'était au bureau de l'Haut Commissaire à Genève, de l'Haut Commissaire aux droits de l'homme. Et là, j'étais très content d'être affecté ici il y a à peu près une année en tant que représentant de Madame l'Haut Commissaire aux droits de l'homme. Et parce que c'est un pays qui, évidemment, me plaît énormément, qui m'attire, bien que j'essaie de le quitter de temps en temps, je me trouve toujours ici. C'est le peuple, certainement, c'est ça qui est le plus attirant. Suivi par la musique, peut-être, mais certainement, c'est un peuple qui est très spécial, qui est très très chaleureux, ouvert. Et c'est les amitiés avec mes amis congolais, effectivement, qui m'ont fait revenir maintenant à plusieurs reprises dans ce pays, et maintenant avec ma famille. Et donc, ça s'appelle Miniko Kovandawa, et bon, Sikoyo, de Botanangai, Pakomaki, donc, ça s'appelle Ebele, bon, Mosala. Mais bon, c'est intéressant. Et donc voilà, je pense que j'ai un grand privilège d'être là et travailler côte à côte avec mes collègues congolais et internationaux.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Je m'appelle Roger Marley Lukunga et j'ai une question adressée à UNOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Cette agence a évalué à 14,3 milliards de dollars américains les achats effectués par l'ensemble du système onusien en 2011. Quels sont les produits ou les services les plus importants achetés? Une sous-question aussi, les achats d'armes sont-ils aussi inclus dans ces statistiques?
Roger Marley, merci pour la question. Madame Dorothée Clay, chargée de communication pour l'UNOPS, vous répond.
Oui, alors il faut d'abord préciser que le rapport statistique concerne les activités d'achat de l'ONU dans le monde entier pour l'année 2011. Il est élaboré par l'UNOPS à la demande du système des Nations Unies. Alors l'étude montre que les achats de services représentent 50,5% et les achats de biens 49,5%. Les sommes les plus importantes ont été consacrées à la nourriture, aux médicaments, au transport et à la construction de bâtiments tels que les écoles ou les hôpitaux. Donc les trois premiers pays fournisseurs qui totalisent 20% des achats sont les États-Unis, la Suisse et l'Inde. Il est à noter que parmi les 10 plus gros fournisseurs, nous retrouvons l'Afghanistan, l'Inde et la Fédération de Russie, qui sont trois des pays en voie de développement. Alors, à titre d'exemple, les achats provenant d'Afghanistan touchaient essentiellement aux activités de construction, au transport et aux services de lutte anti-mine, mis en œuvre par le PNUD et l'UNOPS avec des entrepreneurs nationaux. Les achats provenant d'Inde comprenaient des vaccins, des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux achetés principalement par l'UNICEF. Alors, les 5 plus gros acheteurs étaient par ordre décroissant la division des achats des Nations Unies, le PNUD, le PAM, l'UNICEF et l'UNOPS. Vous pouvez trouver aussi la version intégrale du rapport sur Internet, sur le site soit de l'UNOPS, www.unops.org, ou alors sur le site du portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies, www.ungm.org.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Quelques rendez-vous à retenir pour la semaine qui commence. Le 9 octobre, c'est la journée mondiale de la poste. Et le 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort. Et puis, dans le cadre du 14e sommet de la francophonie prévu du 12 au 14 octobre à Kinshasa, le PAM se propose d'évoquer le jeu en ligne FreeSize. Ce jeu est destiné aux écoliers et aux étudiants. Elle sera organisée sur le stand de l'UNICEF pendant toute la durée du sommet. C'est un jeu de culture générale. À chaque bonne réponse, le joueur gagne des grains de riz. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Il vous a été présenté par Mireille Boukassa Mukendi grâce au concours de Jean-Pierre Elali, Honoré Missenga et Nicole Ngaka Madidi. Vous pouvez réécouter cette émission ce dimanche même à 19h03, mais aussi sur notre site internet radiocapi.net. Merci de votre fidélité. À la prochaine.